travaille. J'emmerde la patrie, j'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde le rapateur qui écrive nos lois. Société caca, société pipi, société capitonnée capitaliste. Société caca, société pipi. Arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est 20h, passé de quelques petites secondes, voire une minute sur Radio Campus. C'est le début, vous l'aurez connu, de l'émission La Voix de son maître, émission du Centre culturel libertaire. Sur ce, on va laisser la parole à Lenny et à Tom pour parler de ce forum que contre la cybercriminalité, c'est ça ? Qui commence ?
Je t'en prie.
C'est ça, ouais. C'est un forum international de la cybersécurité. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. D'accord. Mais avant, il s'appelait effectivement le Forum international de la cybercriminalité et qui était plus orienté gendarmerie, quoi. Et depuis 2 ans, le conseil régional est pas mal dans l'histoire et essaye d'élargir la question aux civils, quoi. Enfin, tous les gens qui ont besoin de cybersécurité, du type les gens qui font du e-shopping, du type les gens qui ont besoin de sécuriser leur réseau informatique, style SNCF, style pour éviter qu'il y ait des trains qui déraillent, qu'il y ait des centrales qui explosent ou qu'il y ait des barges hydrauliques qui cèdent. Voilà. En gros, c'est ça.
Et du coup, ça a lieu les 21 et 22 janvier. Ici à Lille, là,
ouais.
Et tu peux nous dire un peu plus par qui est-ce qu'organise tout ce beau...
Alors, c'est donc le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, la Gendarmerie et Euratechnologie. Donc, c'est pas innocent si ça se passe dans la région, parce que, vous savez, on vit dans une région sinistrée, dans une France sinistrée et un monde sinistré, d'accord, mais la région Nord-Pas-de-Calais est particulièrement... Il y a particulièrement pas mal de chômage et compte quand même beaucoup sur l'économie numérique pour relancer un peu l'économie régionale, quoi. Par exemple, on s'est rendu compte que l'année dernière, le seul endroit dans le Nord-Pas-de-Calais où il y a eu de la création d'emplois, c'est Lille intramuros, quoi. Dans toute la région, il y a eu des destructions d'emplois, sauf à Lille. Et voilà, l'économie lilloise est tirée notamment par l'économie numérique et plus spécifiquement par Euratechnologie qui vient encore de l'année dernière. IBM a annoncé la création de 700 emplois directement à Lille, quoi. Voilà, donc toutes ces entreprises, elles ont besoin de sécurité informatique. Il ne s'agit pas de se faire voler ses secrets industriels, il ne s'agit pas de faire du e-shopping et que y ait des petits malins qui fassent des arnaques à la carte bleue ou des trucs comme ça. Donc voilà, il y a un partenariat qui a été signé entre la région et la gendarmerie nationale, qui est quand même assez en pointe sur la cybersécurité, pour sécuriser toutes ces entreprises technologiques. Voilà. Et il faut savoir aussi que, en tant que telle, la cybersécurité, donc tout ce qui est logiciel de je sais pas, antivirus, tout ce qui est... bon, après, j'y connais que dalle, mais lutte contre les spyware, les malware, les trucs, enfin bref. En soi, c'est un marché, quoi. En soi, c'est un gros marché, étant donné que notre monde se numérise, que notre économie se numérise, il faut la sécuriser, et donc c'est aussi, en soi, un truc que la région développe. Et donc, à ce titre-là, ils organisent ce grand forum international. Là, il y a 3000 inscrits, je crois, un truc comme ça, 400 journalistes, enfin, c'est quand même costaud. C'est Manuel Valls qui vient inaugurer le matin à 9h et le ministre de la Défense qui vient clore
le
mercredi. Ouais.
On a d'y être.
Et donc, il y a ce forum et il y a aussi un pôle spécial cybersécurité qui se monte à Euratechnologie avec des industriels et puis des probablement des gens qui viennent du militaire, quoi, la gendarmerie ou je sais pas quoi.
Et ouais, et juste si du coup bon, c'est du business tout ça machin et tout, mais il y a aussi une volonté de contrôle plus large, enfin c'est pas, enfin ce qui nous embête dans enfin, et pourquoi on se mobilise contre ce forum là c'est pas juste parce que c'est un business et qu'il faut protéger le business, quoi. Enfin, on l'a vu avec Snowden et les révélations, il y a quand même quelque chose qui se joue, et puis Internet, c'est quand même l'espace qui est présenté comme l'espace de la liberté, alors qu'en fait, Il y a un contrôle qui est fort là-dessus, quoi.
Ouais, clairement. Bah, c'est aussi un peu pour ça qu'on organise cette année un rassemblement contre le forum. C'est que depuis 6 mois, on a ce gars, Edward Snowden, qui nous raconte comment Internet permet de, en tout cas, la NSA, mais aussi la DGSE, grâce au réseau numérique, ils peuvent géolocaliser les gens, comment ils peuvent écouter les conversations, faire des cartographies sociales un peu des gens. Voilà, hier ou avant-hier, il y a encore le Guardian qui a sorti que la NSA a enregistré tous les jours 200 millions de SMS, quoi. Géolocalisation comprise, données bancaires comprises, etc. Enfin bref, tout ça sous des prétextes antiterroristes qui sont un peu fallacieux, parce que le terrorisme en France fait moins de morts par an que les excès de verveine, par exemple. Enfin, le terrorisme fait pas de morts, quoi, clairement. Mais bon, ils se protègent quand même contre ça. Et puis surtout, en fait, on voit que ça permet de faire de l'espionnage industriel, quoi. Mmh. Et en fait, de défendre des intérêts que nous, qui vont contre nous, quoi, savoir défendre les intérêts d'industriels, d'Areva, de sites miniers, de centrales nucléaires, d'usines d'armement, de raffineries, tous ces trucs du vieux monde dont on espère se séparer le plus rapidement possible. Mmh. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait ça, et sachant que, deuxième chose, c'est qu'au mois de décembre, donc on est encore à 5 ou 6 mois des révélations d'Edward Snowden sur la NSA, au mois de décembre, il y a l'État qui a voté sa loi de programmation militaire. Donc tous les 5 ans, l'État vote une loi d'orientation industrielle et stratégique pour l'armée française, les programmes d'investissement, de recherche et développement, etc. Dans cette loi, on a quand même un paquet de mesures qui étendent les possibilités d'écoute, de fichage, de géolocalisation, de mise de balises sur les véhicules, etc. Et tout ça sans contrôle judiciaire, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le ministère de l'économie, le ministère de l'intérieur, le ministère de la défense et le ministère de l'économie et des finances, donc y compris l'économie, quoi, qui a ces possibilités-là, quoi. Entre autres, hein, après ils ont annoncé l'embauche de je sais pas combien d'agents de la DCRI, enfin ils y vont à fond sur le renseignement, quoi.
Et ça c'est passé comme une lettre à la poste, hein. Ça fait à peine une petite vaguelette dans le milieu open source et du logiciel libre. J'ai vu des articles passer là-dessus, mais aucune réaction dans la presse sinon là-dessus. Il y a quelques années, c'était complètement impensable.
C'est un peu affligeant, quoi, qu'en France il n'y ait pas du tout de réaction par rapport à nos libertés individuelles et collectives, etc. C'est un peu l'apathie, quoi, parce qu'en fait c'est un peu le... Enfin, même chez les gens qui prétendent à la transformation sociale, en fait, ils se rendent pas compte que, en fait, leurs prétentions, elles sont aujourd'hui nulles, quoi, parce que le premier qui bouge, de toute façon, il est capté, quoi. Enfin, si demain il y a un mouvement digne de ce nom, d'ampleur, etc., c'est plié, quoi. Et puis après, le souci, c'est que c'est moins le côté policier qui, moi, me désespère que le côté publicitaire et industriel, quoi. En fait, tout ça c'est, enfin, le Internet, le big data, etc., ça sert à nous vendre des trucs dont on n'a pas besoin, quoi. Ça sert à comprendre un peu les comportements des gens et à les influer de sorte que la machine continue de tourner, qu'on soit tous des petits consommateurs dociles. Et voilà, que la machine tourne, quoi. Parce que finalement, il n'y a pas de contestation en France, quoi. Ils ont peur de rien. Je veux dire, l'État français, je sais pas de quoi il peut avoir peur, franchement. Étant donné l'avance technologique et humaine qu'il a, je sais pas.
Je voulais revenir sur votre programme d'action. Donc, vous commencez demain avec cette projection. Tu peux peut-être nous présenter un petit peu plus le documentaire que vous projetez demain.
Alors, ça c'était la semaine dernière à l'Insoumise. Il y a eu une petite présentation de quelques résistances au contrôle social et technologique. Ouais. Un petit retour historique sur un groupe de joyeux incendiaires dans les années 80 qui s'appelait le Comité pour la liquidation ou le détournement des ordinateurs, des gens qui étaient basés à Toulouse et qui faisaient des attentats dans des entreprises technologiques type IBM, etc., ou dans des ou qui avaient cramé des centres informatiques de la préfecture. Voilà, on était un peu au début d'une espèce de généralisation de l'informatique où pour les gens c'était clair que le lien était fait entre informatique et fichage, quoi. Il y avait eu le projet Safari en 74 qui avait été retoqué, c'était un projet d'interconnexion de fichiers. En 78, on a la commission informatique et liberté qui se crée, donc informatique et liberté, ce qui fait quand même un peu penser à sécurité et liberté. Donc les gens, à l'époque, c'était assez clair que l'informatique ça servait au fichage. Et donc voilà, il y a eu plusieurs attentats qui ont été faits dans les années 80, qui était un groupe un peu rigolo, quoi. Enfin, toujours, ils s'en prenaient qu'à du matériel. Hein. C'était la destruction de fiches, etc. Ensuite, on a parlé un peu d'un truc qui se passe à Lille en ce moment, qui s'appelle Lille sous surveillance. C'est un site de cartographie des caméras de surveillance. Chacun peut aller sur ce site et cliquer là où il a vu une caméra au coin de sa rue en mettant où elle se trouve, quel type de caméra et qu'est-ce qui est visé.
Ouais, on avait parlé un petit peu de ce genre de choses il y a deux mois, je crois, quand on avait parlé du tireur parisien qui avait été tiré à Libération et ailleurs et qui avait été notamment des cartes de vidéosurveillance qui étaient parues à l'époque avec où Paris apparaissait tout vert, recouvert de caméras partout.
Beaucoup de villes en France qui sont équipées de ce genre de cartes. Marseille, Lyon, Paris, pour celles que je connais, Lille maintenant. Il faut bien s'y mettre, il y a des caméras partout.
Ouais, voilà. L'adresse c'est lille.soussurveillance.net, quelque chose comme ça si vous voulez.
Ah, ça se trouve facilement votre moteur de recherche favori.
Ouais. Et puis il y avait un film, c'était un film qui s'appelle Le Voyage en cybernétique, qui est un peu une histoire des débuts de la cybernétique, et puis une discussion avec un gars qui s'appelle Théodore Kaczynski, qui est aujourd'hui en tôle aux États-Unis, qui était ennemi public numéro 1 pour des attentats. Lui, par contre, il s'est attaqué à des personnes perpétrées contre des gens qui bossent dans l'industrie aéronautique et l'industrie informatique. Voilà, et voilà, ça c'était pour la semaine dernière.
Du coup, il y a une discussion demain.
Voilà, demain, complexe militaro-informatique. L'idée, c'est de présenter l'imbrication du civil et du militaire dans le développement de l'informatique depuis le début, depuis, on va dire, la Deuxième Guerre mondiale, quoi, en gros. Les capacités d'espionnage industriel, quels sont les grands acteurs du développement informatique en France. C'est un peu ça. L'idée c'est aussi un peu de casser le mythe un peu libertaire d'Internet, quoi. Il y a quand même pas mal, là je viens de voir un documentaire qui s'appelle la contre-histoire d'Internet, par un gars qui s'appelle Jean-Marc Manac, où il raconte que Internet c'était fait par des hippies qui prenaient du LSD en Californie dans les années 70. C'est vrai qu'il y avait pas mal de bidouilleurs, mais je veux dire, sans la DARPA, sans l'armée américaine, il n'y a pas Internet, quoi. Sans les gens qui vont fond des mines récupérer du métal précieux pour faire des ordinateurs, il n'y a pas d'Internet. Sans des gens qui extraient du pétrole ou de l'uranium, qui font tourner des centrales, il n'y a pas de filière informatique. Enfin bon, c'est filière informatique, pour moi, elle est anti-libertaire. Même si il est possible de tenir des discours séditieux sur Internet et qu'il y a quelques externalités comme ça qu'on peut réutiliser. Mais l'idée, c'était un peu ça, de montrer à quoi sert fondamentalement l'informatique aujourd'hui, quoi. Voilà.
Bah, vous parlerez de ça demain à l'Insoumise. Une petite nouvelle de l'Insoumise, peut-être aussi, à bientôt, votre expulsion a été prononcée.
Oui, c'est ça. C'est prévu pour le 10 février, officiellement. Après, ça peut tomber le 11 février, comme au mois de juillet. Quoi.
Et d'ailleurs, à cette occasion-là, 10-11 février, il y a tout un week-end.
8-9,
la veille. Vous et la CNT, vous faites des choses. On en reparlera dans cette émission.
Il y aura plein de gens qui vont venir, des gens de Total, des gens de Saint-Gobain, des gens de toutes les luttes, un peu la Redoute.
Ok, on fait une petite pause musicale. On fait une pause musicale avec quoi, Quentin ?
Quel est le nom de la piste qui suit?
Katzebbkonstroy.
Ah oui, d'accord. non, ça, c'est du punk de la belle cité phocéenne. Un groupe qui s'appelle Zbeb, qui tourne toujours, mais surtout sur Marseille. Voilà, qui sont aussi des copains et des copines. Donc voilà, une chanson qui parle des révolutions qui se font, mais qu'on s'était fait toujours voler à la fin, et que les systèmes se reconstruisent malgré tous les efforts des gens qui se battent.
20h27, le 0320 91 24 00, si vous voulez nous appeler. À tout de suite.
We'll be right back.
Vous êtes sur Radio Campus et vous écoutez La Voix sans maître.
Et c'était qui ?
Voilà, c'était Zbeb Konstroy, donc produit par Akratos. Akratos qui veut dire sans pouvoir en grec.
En grec.
Voilà, donc et un label punk de Marseille, bien sympa.
Voilà, donc, toujours La Voix sans maître. Et tu vas après parler cybersécurité, on va parler sécurité en chaussettes à clous.
C'est ça, voilà. Ouais, je voulais faire un petit speech, en fait, une autre critique de la police que celle de la police violente, raciste, etc., qui, donc, de fait, provoque un certain ressenti chez les gens, qui est donc un sentiment, quoi, on va dire de la haine, de la rancune. Mais en fait, là, je voudrais aborder la chose sous l'angle, en fait, de l'utilisation que fait l'État et le capitalisme de la police, puisque la police est, en fait, le bras, on va dire, armé du capitalisme, qui fait marcher droit les petits travailleurs, qui essaye d'éviter que les idées dissidentes ne soient trop bien répandues. Une bonne illustration de ce phénomène, c'est les Français qui prêtent des policiers donc très bien entraînés, parce qu'ils ont l'habitude de nous cogner dessus ici depuis bien longtemps. Donc la France prête ses services après la Tunisie, etc., au Brésil, qui en a besoin pour protéger tous ces stades, ces grands footballeurs, ces chefs d'État qui vont venir regarder les jeux, donc le pain et les jeux, hein, comme il y a longtemps. Donc à ce sujet, j'ai repris un petit texte, en fait, qui est donc signé par notre chère fédération anarchiste, mais également la Biblioteca Terra Livre du Brésil de Sao Paulo. Donc qui vous raconte que donc fin novembre 2013, la police française, donc les CRS, la Compagnie Républicaine de Sécurité, si jamais vous demandiez ce que ça voulait dire, est allée entraîner les policiers du bataillon de choc, le Batalhão de Choque. Probablement, de la police militaire de Rio suite aux manifestations dont on vous a parlé ici même. Donc le but de l'échange entre les deux forces de police était d'échanger des informations sur la façon d'agir dans les émeutes, actes de vandalisme, de contrôler des groupes violents et d'autres dépradations enregistrées en vue d'événements lors de la Coupe du Monde de foot et des Jeux Olympiques de 2016. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont les deux, j'avais oublié. Donc la police française est, paraît-il, spécialisée dans la gestion des mouvements de protestation et dans le contrôle des foules. Le gouvernement français a déjà prouvé par le passé sa célérité à porter une aide répressive et militaire, donc en toute amitié. Donc on commence avec l'opération Condor, qui a consisté à une contre-révolution préventive de la part des dictatures d'Amérique du Sud dans les années 70. Plus récemment, le gouvernement français proposait ses services pour intervenir en Tunisie, donc bien gentiment, au début de la révolution, pour aider le régime en place à réprimer les mouvements de contestation. La France a par ailleurs envoyé du matériel policier à Ben Ali. En 2010, la police française est intervenue en Égypte auprès d'officiers des services d'ordre public de la sécurité d'État pour les renseigner, donc pour la gestion des foules et des grands événements. Et en Afrique, etc. Donc ça, on a continué jovialement à distribuer des policiers partout.
Ouais, juste pour faire le lien avec le sujet précédent, on peut aussi rappeler que certaines entreprises françaises ont activement aidé les régimes libyens et tunisiens et égyptiens à surveiller leur population, cyber-surveiller leur population. Je ne sais plus quel est le nom de ce programme et de cette entreprise, mais ça valait les informations de la NSA.
Oui, oui, très certainement. Donc le voilà, le texte des copains et copines brésiliennes, donc finit en disant qu'ils condamnent, etc. Donc ce partage de formations policières, donc une fois de plus, pour protéger donc que le capitalisme puisse se faire tranquillement dans la joie et la bonne humeur pendant que les gens n'ont rien à côté. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être des consommateurs, mais des citoyens, c'est moins sûr. En continuation donc de ces actes de répression de la police, principalement pour protéger notre droit à acheter, le 31 décembre donc de l'année dernière, le soir du réveillon, à Nantes, Une action d'autoréduction dans un supermarché a eu lieu. Donc une action d'autoréduction, qu'est-ce que c'est ? C'est on déboule à quelques-uns, le plus nombreux et le mieux, nombreux, nombreuses, dans un supermarché. On remplit nos caddies et on dit écoutez, nous, on considère que c'est vous qui nous volez, donc on vient faire de l'autoréduction. On considère que vous exploitez tout le monde sans vergogne, donc on vient servir, ça nous appartient. Donc, bien sûr, ça ne plaît pas forcément au patron, au capitaliste et donc à son bras armé qui est la police. Donc les militants, militantes de Nantes se sont fait tomber sur leur rab par les Bleus. Bon, ils les ont joyeusement tabassés. Bon, comme c'était des gauchos, ça n'a pas vraiment fait de vague. C'est un peu la moralité de l'histoire. Et je voulais finir sur cette critique anticapitaliste de la police. Sur une police dans un autre pays, donc qui n'est plus la police française, mais cette fois au Cambodge. Donc je suppose que vous avez entendu ce qui se passe ces temps-ci au Cambodge. Donc le Cambodge est un des premiers pays producteurs de vêtements au monde, et donc les gens là-bas sont payés un salaire de misère. Pour la plupart, ces usines fabriquent des vêtements pour des entreprises européennes, américaines, enfin occidentales, dirons-nous. Et là-bas, une fois de plus, la police est là pour empêcher que ces gens qui manifestent, qui en fait réclament un doublement de leur salaire qui pourrait très bien leur être accordé quand on voit les bénéfices par les entreprises qui les emploient. Et donc, bon, une fois de plus, qu'est-ce qu'on envoie pour éviter que ces malheureux coûtent trop d'argent au patron ? Donc la police. Donc voilà, une bonne raison de se battre contre la police, c'est qu'elle assoit notre exploitation par les puissants. Et je voulais finir en citant le responsable de la sécurité là-bas au Cambodge qui a dit « Si nous leur permettons de continuer à faire la grève, cela va devenir l'anarchie ». Voilà.
Ah, je crois que j'ai aussi entendu parler d'anarchie en Centrafrique aussi récemment.
Oui,
mais on n'était pas au courant.
Non, c'est pas la même, je crois.
Ouais, c'est pas la même.
J'ai pas l'impression.
Bon. Un peu d'action musicale, voilà, alors, comme dit Manuel.
Musicale,
sauf s'il y a un commentaire, Tom, non, tu rentres pas pour ça. Alors non, non, action musicale plutôt que faire une pause.
Ouais, donc oui, comme c'est bien préparé, articulé, une chanson qui s'appelle Consomme de Bistanclac, voilà, qui vous explique à quel point c'est bien d'être un bon petit consommateur.
Centre-ville au quartier, des campagnes aux bourgades, l'idée du bien habillé fait son travail en brigade. On ne porte que de la marque qu'on arbore fièrement. On croit même qu'on se démarque alors qu'on vit conformément au modèle du 9 sans autre chose que du futile qui engraisse les puissants. Ceux qui imposent leur style, qu'est-ce que l'on peut bien prouver? En Lévis et en Lacoste, moi j'arpente le pavé. Avec un pull Lacoste, ça donne de quoi discuter. Plutôt que de parler du ciel, une voix, une facilité. Face au vide existentiel, bonjour, moi c'est Calvin Klein. Enchanté, moi c'est champion, et à part ça tout va bien. On est tous les mêmes pions, certains pions n'ont pas l'argent. Pour faire comme les vrais bourgeois, accéder au bonheur marchand, procure autant de joie, se sert directement. Et les vitrines explosent, c'est plus drôle assurément. Mais c'est quand même le respect de la clause qui dirige la population dans des ambitions faussées, la plonge dans l'obsession de ne jamais être dépassé. Sainte nouveauté que la religion des marchands doit sans cesse réinventer pour que l'on ne devienne pas méchant. Qu'il n'y ait que la mode comme facteur d'identité, que tous nos gestes, tous nos codes, à ce que l'on possède soient limités. C'est une pieuse mission, acheter doit devenir un réflexe. Ou alors c'est l'exclusion, tu seras mis à l'index. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du consomme. Pour que tu consommes, c'est un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du consomme. Et pour que tu consommes, si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. ce ne sont plus les nouveaux vêtements, mais la nouvelle voiture. Il te faut te renouveler, renouveler ta pâture, car ta personnalité se trouve dans l'armature de ton signe de pouvoir. Aux quatre jantes chromées de ton bel objet de foire, que jalouseront les paumés à force de consommer frénétiquement. On finit par transformer jusqu'à l'amour les sentiments. Quand tu me parles, tu m'ennuies, je te zappe avec mon portable. Mes amis sont des produits, des bandes de mes humeurs instables. On consomme du relationnel, chaque bonheur est biaisé, même les plaisirs charnels doivent être rentabilisés. Il est là l'homme nouveau, l'homme unidimensionnel, qui se sert de son cerveau comme du dernier logiciel. La pour seule ambition de posséder du bien matériel, seul facteur d'intégration en mode de vie officiel. L'homme du troisième millénaire sera le consommateur, frustré, envieux, actionnaire. Un con, un saut, un mateur. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, et pour que tu consommes. Si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, et pour que tu consommes. Si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, et pour que tu consommes. Si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme.
C'était Quentin, c'était qui?
Oui, donc c'était Bistanclac, qui vient d'une onomatopée lyonnaise, t'en as pris pendant la petite coupure musicale, et c'était Consomme.
Sur Radio Campus, dans La Voix sans maître, encore un petit quart d'heure ensemble, un gros quart d'heure ensemble. Et, décidément, on fait beaucoup, tous autour à peu près d'un thème qui se regroupe là ce soir. Cyber, sécurité d'abord, keuf ensuite. Pénalisation des drogues pour finir. Ah. Je pense qu'on aura fait à peu près le tour de la répression et de l'encadrement de la société ce soir. Je vais vous parler un petit peu d'un article qui est paru dans la revue Vacarme, qui est une bonne revue et qu'on trouve d'ailleurs, Léni, au Centre culturel libertaire, dont on peut rappeler l'adresse.
4 rue de Colmar, et la bibliothèque est ouverte les mardis de 16h à 19h et les samedis de 15h à 18h.
Une bibliothèque où il y a plein de trucs à lire et à emprunter et à consulter et aussi un petit peu à acheter. Voilà, la revue Vacarme qui a fait paraître un article de quelqu'un qui s'appelle Aude Lalande, que je ne connais pas, qui demande ce qui se passe en France à propos de la politique des drogues, et qui commence par nous rappeler que la loi en France, c'est la loi de 1970, qui est la loi de la prohibition de toutes les drogues, totale, et que ça n'a pas empêché l'augmentation permanente des consommateurs de drogues, et particulièrement de cannabis. Et dans cet article, il fait un petit peu le bilan de tout ce qui se passe... de ce qui se passe en France et à l'étranger à propos justement de pénalisation ou de dépénalisation, et ça nous montre que la France est un petit peu l'exception concernant la plupart des pays européens et même d'autres pays du monde. Cet article commence en parlant de ce qui a été une des toutes petites avancées de ces derniers mois et de cette année en matière de drogue, c'était le projet d'ouverture d'une première salle de consommation sur Paris. Qui avait déclenché des foudres politiques et médiatiques à l'époque. C'était en juin dernier. Et ce projet, objet de toutes les attentions associatives depuis près de 4 ans, discuté au plan national, mis en chantier finalement par la ville de Paris, seule, depuis décembre, s'est écroulé en octobre. Décembre 2012, et s'est écroulé en octobre, vu qu'au seuil de l'ouverture de la salle, alors que les embauches étaient en cours, que certaines des personnes recrutées avaient déjà démissionné de leur poste précédent, un arbitrage du Conseil d'État demandé par le gouvernement a recommandé d'inscrire dans la loi le principe de ce dispositif pour plus de garanties juridiques. Grand coup d'arrêt, grand coup de frein, tout a été arrêté. Et le même gouvernement héros qui avait donné son feu vert au projet en février 2013 a réussi à le bloquer 8 mois plus tard en demandant son avis au Conseil d'État. C'est fini pour le moment, il va falloir attendre qu'une loi soit votée. Et en la matière, on pense qu'on va pouvoir attendre un petit peu. Chacun connaît l'incroyable rigidité de la loi de 1970, qui depuis plus de 40 ans déjà régit la lutte contre les drogues en France, sans jamais désavouer son principe de base. Il faut tout interdire, aussi bien la consommation que la vente, le trafic, que la simple détention de stupéfiants, voire même le propos flatteur sur les drogues ou l'hébergement de dealers, que le blanchiment massif de liquidité. Voilà tout ce que couvre cette loi. Et chacun sait aussi que cette lutte est animée en France non seulement par l'objectif d'une réduction de l'offre, mais aussi par celui d'une réduction de la demande, exigence sans cesse réaffirmée. Depuis qu'Étienne Appert, un proche de Sarkozy, a été mis en 2007 à la tête de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Ce monsieur a certes quitté son poste en 2012, quelques mois avant l'alternance, mais ce discours continue d'animer l'action publique de cette même mission continue d'être porté aussi par le ministre de l'Intérieur. Et on est loin de voir se profiler le changement. Et pourtant, la France est un peu seule dans ce cas-là. Aujourd'hui, un pays comme l'Uruguay, deux États américains comme celui de Washington ou le Colorado sont en train de légaliser le cannabis. 12 pays européens en ont dépénalisé ou légalisé l'usage. 90 salles de consommation existent environ dans le monde. L'Allemagne en compte 25. La première a été ouverte en Suisse il y a 20 ans. Et en France, se joue une ultime crise autour de l'ouverture d'une seule salle de consommation. Vous rendez compte qu'on en est loin de tout ça. L'article se termine, et je terminerai sur une étude qui montre que cette politique est de plus en plus rejetée par la population française, deux Français sur trois, selon une étude dont je parlerai plus tard, seraient favorables à une évolution du statut du cannabis, parce que la situation en France, elle n'est pas bonne. Les taux de contamination par l'hépatite C sont très élevés chez les injecteurs français. Pour citer des statistiques, la moitié en sont atteints, et 10% des injecteurs français sont atteints du VIH. Et c'est évidemment plus que dans d'autres pays européens. La consommation de drogue n'a cessé d'augmenter. Et les études montrent qu'au moins 45% des 15-35 ans ont consommé une fois du cannabis au moins dans leur vie. Chiffre qui maintient la France dans le peloton de tête des pays européens. Le nombre d'interpellations pour usage ne cesse d'augmenter. Il a cru de 160% entre 1995 et 2010. Et ça représente actuellement en France 120 000 procédures pénales. Malgré l'inflexibilité de tous les gouvernements successifs, malgré les appels répétés à gauche comme à droite à ne donner aucun signe de permissivité et à se souvenir de la dangerosité des drogues, de toutes les drogues, notamment du cannabis, qui fait l'objet de campagnes de prévention appuyées depuis 10 ans, les Français sont en train de changer massivement d'opinion sur le statut légal de ce produit. Le 12 novembre dernier, l'Observatoire français des drogues et toxicomanie publié le résultat de son étude Europe 2012, qu'il publie tous les ans, sur la perception et opinion des Français sur les drogues. C'est la quatrième édition de cette enquête. Et pour la première fois, une majorité des sondés est favorable à la proposition d'autoriser le cannabis sous certaines conditions, en maintenant cependant l'interdiction pour les mineurs et avant de conduire. Leur proportion a doublé sur la période 2008-2012. Passant de 31 à 60%, deux Français sur trois, qui seraient donc aujourd'hui favorables à une évolution du statut du cannabis. Certes, c'est que le cannabis. Et certes, il y a des effets de génération, car plus les individus ont consommé un produit, plus ils admettent l'idée qu'on l'autorise, et plus ils considèrent comme inapproprié la prison. Et les générations qui ont expérimenté le cannabis sont de plus en plus nombreuses. Excusez-moi, je bafouille un petit peu là. Bon, le débat est complètement bloqué.